Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, votre émission consacrée au savoir-faire français. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir des entrepreneurs qui ramènent la nature dans notre quotidien. Alors tout à l'heure, vous découvrirez une entreprise qui a une idée géniale. Elle est partie d'un constat simple qu'aujourd'hui les maraîchers avaient de plus en plus de mal à trouver une terre à exploiter. Alors pourquoi ne pas utiliser les espaces verts des entreprises pour y installer des potagers? Très très bonne idée, une idée simple et de bon sens, on en parle tout à l'heure. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir une autre jeune société qui, par son invention, ramène la nature dans notre quotidien.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et on commence avec vous, Virgile de Surmont. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Backsack, dont le concept est là aussi super. Vous proposez donc des contenants assez design pour toutes sortes de plantations en intérieur, en terrasse, sur des balcons.
Alors c'est surtout en extérieur.
Ouais.
En fait, cette société, on l'a montée parce qu'on était paysagiste et designer. Et qu'il nous semblait intéressant d'apporter une solution qui soit plus adaptée à la ville.
Donc plus en quoi elle est plus adaptée à la ville que les pots classiques en terre cuite que l'on a essentiellement jusqu'à présent?
Parce qu'elle est légère, qu'elle est souple, et donc ce qui la rend nomade. Donc ça permet de l'installer sur les balcons, sur les toitures. Et voilà, elle répond à toutes ces problématiques d'une ville qui n'est pas forcément au départ conçue pour recevoir justement de la terre sur les toits. Et donc on a développé cette enveloppe technique qui vient respecter l'équilibre de la terre et qui permet justement aux plantes de bien se développer.
Et aux personnes notamment qui doivent souvent les sortir, les rentrer, avoir moins de mal de dos peut-être?
Absolument, c'est, quand on est paysagiste, le problème de dos est une vraie problématique. Et effectivement, de pouvoir rentrer une plante, la sortir en fonction des saisons.
Et c'est vrai, déplacer des pots, ce n'est pas évident. Les stocker, l'espace, là aussi, on y gagne finalement.
On y gagne parce qu'effectivement, on a réfléchi à toutes les problématiques de végétalisation de la ville, à toutes les échelles. Donc, ça va du rebord de fenêtre au balcon filant, à la petite terrasse, au grand toit terrasse. Ça nous arrive d'installer même des fermes maraîchères avec nos contenants.
Alors, vous disiez à l'instant, vos contenants sont faits dans des matériaux particuliers. Quels matériaux vous utilisez pour faire ces backsacks?
Ce sont des textiles techniques spécialisés qui sont résistants aux conditions extérieures. Donc un backsack, ça dure environ entre 10 et 15 ans. Et ils vont pas se déformer, ils vont tenir au soleil.
La couleur ne va pas s'altérer, parce que j'imagine qu'il y a différents coloris.
Il y a différents coloris, il y a différentes matières. Le projet est né au départ en détournant cette matière qu'on appelle une toile de paillage, qui est en fait utilisée le long des autoroutes ou dans les jardins contre ce qu'on appelle les aventices. Et on a pris cette toile qui, justement, laisse respirer la terre pour en faire des pots.
Mais c'est parti de, comment dire, c'est du vécu, c'est-à-dire en tant que paysagiste, vous disiez que vous étiez paysagiste?
Absolument.
Et le cofondateur?
En fait, on est trois, on est deux paysagistes et un designer. Quand on fait des installations pour des gens, ce qui est important, c'est la plante. Le pot n'est qu'un outil. Et c'est comme ça qu'on a pensé le projet. Se dire que l'enveloppe doit être la plus légère possible pour pouvoir avoir le maximum de terre et pouvoir justement avoir des plantes encore plus grandes.
C'est pour ça que vous dites, je vous cite, nous voulons réintroduire la nature dans la ville avec Backsack. Donc c'est ça, avoir plus de terre, ne plus donner d'excuses aux gens pour ne pas mettre des pots justement pour développer la nature dans notre quotidien.
On peut aussi penser la ville comme un jardin dans la ville.
Ouais.
Et ça, c'est un peu notre utopie, c'est se dire que si chaque balcon, chaque terrasse en ville avait juste un pot avec un arbre, je pense que ça serait extraordinaire.
Alors comment vous expliquez qu'on n'a pas ce réflexe-là encore, qu'il y a encore beaucoup de balcons qui ne sont pas fleuris, qui ne sont pas là, qui sont vides, hein, si ce n'est peut-être une chaise, une petite table pour prendre le petit déjeuner le matin?
Peut-être parce que les gens ont un peu peur de mettre les mains dans la terre, ils n'ont pas forcément la connaissance.
La main verte, ils se disent, oh là là, c'est compliqué en termes d'organisation, en termes de...
Ça a été notre approche, c'est de se dire, on crée un contenant qui va séduire les gens et se dire, tiens, ce contenant me plaît et je vais, moi, essayer de planter mon balcon, cultiver quelques tomates...
Se mettre au jardinage.
Se mettre au jardinage.
La clientèle visée, c'est plutôt les particuliers, les professionnels ?
La clientèle visée, elle est. On travaille avec les écoles, donc avec les villes. On travaille effectivement beaucoup avec les particuliers via notre site internet. Et puis, on a un département sur mesure qui permet de vraiment travailler avec les architectes, les urbanistes.
Ah oui, les réseaux professionnels, ouais.
Les paysagistes.
Vos confrères, vos compatriotes,
voilà.
Confrères.
Donc nous, on recommence à faire des projets parce que pendant 10 ans, on a mis un peu côté notre travail de paysagiste en disant qu'on développe des solutions pour les paysagistes. Et maintenant, au bout de 10 ans, on recommence à mettre un peu la main dans la terre pour les gens et c'est un vrai plaisir.
Comment sont distribués vos bacs sacs justement, tous ces bacs que vous proposez? Comment fait-on pour les trouver ?
Alors, nous, on a une petite boutique à Paris, dans le 5e. Sinon, on est distribué à travers un réseau de boutiques à travers la France et l'étranger. Et sinon, on a un site internet. Comme c'est un dépôt en textile, ils sont très légers. Ils ne sont pas fragiles.
Ça ne coûtera pas un bras pour le recevoir.
Voilà. Et donc, on arrive à l'expédier un peu partout dans le monde.
Vous en êtes où, justement, à ce jour, en termes de clients, clientèle? Combien de clients utilisent vos bacs sacs? Est-ce que vous avez une idée du chiffre d'affaires qui est réalisé?
Alors, on fait... je peux vous dire, plutôt, on a vendu depuis le début de bacs sacs. Maintenant, on va avoir 12 ans, 80 000 bacs sacs.
Ouais. Alors, quel est le prochain gros défi à relever pour bacs sacs?
Le prochain gros défi... ce serait déjà d'être un peu plus connu, mais après c'est le gros défi, c'est de vraiment arriver à pousser les gens à avoir quelques plantes sur leur balcon, de se balader dans la rue, de se dire ah ça y est, on a réussi à convertir la ville et de la transformer en jardin.
Mais alors pourtant les Français sont bricoleurs, donc peut-être que du bricolage au jardin, on va y arriver finalement.
On peut y croire.
Il faut être optimiste.
On y croit, c'est pour ça qu'on est encore là.
D'ailleurs, votre clientèle, c'est plutôt des jeunes, plutôt des personnes âgées, au niveau des particuliers, je parle, hein, pas des professionnels.
Non, c'est plutôt des femmes et plutôt âgées dans la cinquantaine.
Alors, vous évoquiez beaucoup les balcons, les villes, donc vous êtes plutôt citadin ou vous visez...
On est très urbain.
Ouais.
80% des gens vivent en ville, donc... L'enjeu aujourd'hui, il est en ville, pour nous en tout cas.
Dans la capitale ou bien au niveau de votre clientèle, vous avez réussi un petit peu à vous faire connaître en dehors de l'Île-de-France ou pour l'instant vous êtes encore très centré sur, sur Paris et ses environs?
On est sur toute la France, on vend en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, jusqu'au Japon, aux États-Unis.
C'est fabriqué où d'ailleurs, Bacsac? Vos contenants sont fabriqués où?
Alors, toutes les matières sont... On travaille avec des tisseurs français.
Ouais.
Et on a fait un peu le chemin inverse de tous les gens qui travaillent le textile.
C'est-à-dire? Ça m'intrigue. Enfin, ça nous intrigue, j'imagine.
Ça vous intrigue? En général, on source les matières plutôt à l'étranger, et on les tisse à l'étranger, et on fait de la confection en France. Nous, on a fait le chemin inverse.
Donc tout est fait ici, la matière première c'est tissé ici. En revanche, c'est cousu, enfin c'est confectionné.
C'est confectionné en Roumanie.
Ah oui, d'accord. Bon, on reste dans l'Europe.
Bon, on reste dans l'Europe. Voilà.
Merci beaucoup Virgile de Surmont. Restez avec nous, on va découvrir justement une autre entreprise qui elle aussi a décidé d'utiliser ses espaces verts dans la ville. On en parle tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir des entrepreneurs qui ramènent la nature dans notre quotidien. Et tout de suite, de découvrir une entreprise qui a eu l'idée géniale d'utiliser les espaces verts des entreprises pour les maraîchers.
Sud Radio, C'est ça la France.
Et on en parle tout de suite avec Claudio Muscus. Est-ce que j'ai bien prononcé?
Oui, c'est super Nathalie.
Merci beaucoup Claudio. Ça m'encourage. De culture et compagnie. Alors, c'est vrai que l'idée, elle paraît toute simple. Hein. Vous partez d'un constat, c'est la difficulté aujourd'hui pour les maraîchers de trouver des terres cultivables. On a une idée du nombre de terres cultivables détenues par les entreprises en Île-de-France ?
Alors, en fait, le chiffre qu'on a, qui est issu d'une thèse écrite par Hortense Serret du Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle a réussi à identifier que les entreprises en petite couronne francilienne détiennent 8700 hectares d'espaces verts. Et donc, c'est un foncier qui a une valeur inestimable, puisque comme vous le savez, en région parisienne, les prix de l'immobilier...
Le moindre mètre carré est précieux.
C'est très compliqué, donc c'est des surfaces qui sont non constructibles. D'ailleurs, ça peut être une obligation au niveau de certains PLU, les plans locaux d'urbanisme des collectivités locales. Et du coup, ces espaces verts, ce qu'on se propose, c'est de convaincre les entreprises de s'engager dans la transition écologique en les mettant en culture bio, des fruits et légumes bio.
En faisant des potagers notamment. Mais ils en font quoi, eux, en général, de ces espaces verts ? De la pelouse ? Qu'est-ce qu'ils font de ces espaces, les entreprises ?
Oui, tout à fait. En général, c'est de la pelouse. Pire, ça peut être des friches. Ouais. Hein, aucun entretien. Ou alors, c'est parfois des prairies fleuries. Donc nous, on se propose effectivement... Alors, on veut aller un petit peu plus loin que créer des potagers. Parce qu'en fait, ce que Culture et Compagnie se propose de faire, c'est de créer des fermes maraîchères bio. Quand je dis fermes maraîchères, c'est en fait des surfaces idéalement qui font un hectare.
Ah, quand même.
Donc c'est grand, ouais, c'est très grand. Pourquoi un hectare ? Parce qu'en fait, ça permet d'installer un jeune maraîcher à plein temps. En fait, ce qu'on veut, c'est créer une activité économique de plein temps pour des jeunes agriculteurs qui ne trouvent pas de terre en périurbain, parce que c'est là que la terre est la plus rare, et qui veulent s'installer à plein temps avec... des débouchés de commercialisation sur place, hein, puisque l'entreprise, elle a des salariés, et puis il y a des riverains aussi. Et donc là, c'est idéal pour justement leur vendre en direct des fruits et légumes bio.
Ils repartent avec leur petit sac de fruits et légumes fait sur place, sur le terrain de l'entreprise. Mais il y a des entreprises aujourd'hui qui ont près d'un hectare de terre comme ça inexploitée.
Ouais, c'est bizarre. Hein.
Voilà, c'est incroyable.
On se demande pourquoi d'ailleurs, mais en fait, dès que vous allez un petit peu, vous prenez votre voiture et vous allez un petit peu autour des grandes villes françaises, hein, je ne parle pas que de la région parisienne, autour de Lyon, de Bordeaux, de Lille, bah, en fait, vous voyez en général des grandes pelouses. Ça peut être autour d'entrepôts, ça peut être autour de centres logistiques, ça peut être sur des campus, des parcs d'activités, des sièges sociaux. Et voilà, en général, alors les patrons des entreprises, ils peuvent les garder parfois, ces surfaces-là, si elles sont constructibles, mais encore une fois, je précise, elles ne le sont pas toujours, parce qu'ils se disent, ah bah tiens, peut-être un jour je vais faire une extension de mon usine, ou je vais faire une extension de mon parking, mais en fait, ils ne le font jamais. Et ça fait 10 ans qu'ils ont ces pelouses.
Tant qu'ils ne bétonnent pas la pelouse déjà, c'est pas mal. Il y a une liste d'attente effectivement importante pour les maraîchers, pour trouver justement une terre exploitable.
En périurbain, dès que vous êtes autour d'une grande ville, vous avez cette pression foncière, la spéculation immobilière qui fait que si vous voulez vous installer à côté de Paris, vous pouvez mettre jusqu'à 3 ans pour trouver un hectare. Parce qu'en plus, il y a une autre mécanique qui joue, c'est qu'en fait, en France, on a plutôt une agriculture avec des grandes exploitations. La taille moyenne d'une exploitation en Île-de-France, c'est 113 hectares. Donc quand vous êtes un jeune qui sort d'un cursus agricole, ou même un moins jeune qui veut se reconvertir et devenir maraîcher après une carrière dans le service ou je ne sais quoi, et que vous voulez juste acheter un hectare ou deux, en fait, ça n'existe pas.
Ouais, non, c'est pas possible, c'est compliqué. Alors justement, la contrepartie pour les entreprises de se lancer dans cette aventure avec vous, qu'est-ce qu'elles y gagnent, elles, les entreprises ? Parce que j'imagine que ça, c'est un argument important pour vous, pour les convaincre de faire le grand saut.
Oui, c'est une excellente question, parce qu'en fait, Culture et Compagnie, je le précise, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Mais on est une entreprise, on a une contrainte, c'est de gagner assez d'argent pour payer les salaires de notre équipe. Et donc, ce qu'on va voir, ce qu'on va dire quand on va voir ces entreprises, effectivement, on va leur dire qu'elles ont des bénéfices pour ce projet. En général, il y en a 3. Le premier, c'est de faire un projet de communication ambitieux. Parce que c'est pas tous les jours qu'une entreprise, elle crée une petite ferme et elle héberge un jeune agriculteur sur son site. Le second, c'est d'engager les collaborateurs et les salariés dans cette démarche, puisque ils vont pouvoir acheter des paniers de légumes et ils vont pouvoir mettre les mains dans la terre, jardiner, selon un programme d'activité de jardinage annuel que Culture et Compagnie se propose de concevoir. Et le troisième bénéfice, c'est la réduction des coûts d'entretien, puisque vous l'imaginez bien, des pelouses, ça coûte de l'argent à entretenir, puisqu'il faut les tondre. Parfois, il faut élaguer des arbres s'il y en a. Et du coup, puisqu'on installe une ferme maraîchère, on supprime ces coûts d'entretien-là.
Alors, je suis une entreprise, je vous entends à la radio, j'ai envie de faire appel à Agriculture et compagnie. Comment ça se passe concrètement ? Pour trouver le maraîcher, le bon maraîcher, comment ça se passe ?
Concrètement, on est conscient qu'une entreprise aujourd'hui, elle doit d'une part se concentrer sur son métier à elle, et d'autre part, il faut que ce soit un projet qui crée des bénéfices pour elle. On a parlé ensemble des bénéfices. Du coup, nous, ce qu'on propose à Agriculture et compagnie, c'est de tout faire, c'est de ça. A à Z.
Vous vous occupez de tout.
C'est clé en main. Voilà. Donc, vous n'avez qu'à nous contacter. Écrivez-nous sur notre site internet et ensuite, on se fera un plaisir de vous expliquer notre approche. Mais en gros, on travaille en quatre phases, quatre grandes phases. Conception, installation, animation et communication. Et donc, on va tout gérer. On va faire les analyses de sol qui vont bien pour vérifier que la terre n'est pas polluée, parce que ça peut être une peur. Hein, et du coup, on a des solutions par rapport à ça. On va faire une étude aussi des attentes des salariés. S'ils ont envie de jardiner, qu'est-ce qu'ils ont envie de manger, il faut aussi les impliquer, hein, puis c'est un projet d'entreprise. Et puis ensuite, on va chercher le futur maraîcher, l'aider à s'installer. Il faut installer les serres, le système d'irrigation. C'est un vrai projet ambitieux.
Hein. Et vous allez valoriser une terre inexploitée, un foncier inexploité là encore. Merci beaucoup Claudio Muscus de Culture et Compagnie. Merci à Virgile de Surmont de Bacsac. Je vous propose maintenant d'aller nous balader avec Thibaut, notre French Trotter.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors je crois que vous allez nous parler aujourd'hui d'une très belle entreprise du patrimoine vivant.
Ah oui, c'est exact Nathalie. J'ai visité l'atelier parisien de la famille Thierry. Alors ils sont doreurs de père en fils. Ce sont des spécialistes de la dorure à la feuille. Et vous savez, ils ont de sacrées références. Par exemple, on peut voir leur travail au château de Versailles,
ah oui,
au Palais Royal, mais aussi à Disneyland Paris, le fameux château de la Belle au Bois Dormant. Ouais, c'est très varié. C'est Clément Thierry qui a repris les rênes de l'atelier avec son frère. Alors, est-ce que la dorure, c'est souvent une histoire de famille ? Je vais poser la question.
Dans le milieu de la dorure, déjà, le métier de doreur est un métier relativement rare. Après, dans l'artisanat, il faut reconnaître que c'est souvent des histoires de famille, donc je ne pense pas que ce soit si rare que ça. C'est un métier pour lequel on a souvent il y a souvent un attachement, il y a une fibre, un ADN, et c'est quelque chose qui nous tient et on le retrouve finalement autour de nous, auprès de nos confrères, pas seulement les doreurs, mais les métiers du bois, les vernisseurs, les peintres décorateurs. Donc c'est quelque chose que l'on retrouve finalement assez souvent.
Donc vous êtes tombé dedans tout petit. Alors, quelle est votre formation ?
Alors, les trois frères et sœurs que nous sommes avons trois formations totalement différentes. Mon frère, lui, a fait une école de commerce, ma sœur une école de marketing, et moi, des études d'histoire de l'art. Donc, finalement, nous n'étions pas du tout destinés à aller vers la dorure, mais le métier nous a rattrapés, d'abord, on va dire, en prêtant main forte de façon saisonnière auprès de notre père. Et puis, nous avons finalement, un par un, fini par plonger dans la marmite.
Alors, justement, allons dans le vif du sujet. Quel est votre travail au jour le jour ?
Alors, il se passe plein de choses, parce que traditionnellement, on est amené d'abord à conserver le patrimoine. Donc, on se déplace beaucoup sur site, mais on travaille aussi à l'atelier, on restaure également du mobilier, mais on est amené aussi à travailler sur des projets contemporains où des architectes, des designers, des artistes.
C'est l'aspect de création de votre travail ?
Exactement. Il y a une partie conservation, restauration et une partie création où justement le travail d'artisan, d'artiste-artisan est un peu flou finalement parce que on nous demande aussi d'être force de proposition avec la matière que l'on travaille.
Moi, je dois vous dire, Thibaut, que je trouve ce savoir-faire fascinant. Alors, j'imagine Clément en train de travailler avec sa feuille d'or, frotter sa joue avec le pinceau pour qu'il se charge d'électricité statique, pour après capter la feuille d'or et la poser sur son support. Est-ce que la technique a évolué au fil des ans ?
Vous le décrivez bien, c'est exactement ça. Alors j'en ai discuté avec Clément, qui regrette qu'il y ait beaucoup de clichés liés à ce fameux geste du doreur avec sa feuille d'or. Alors si la technique n'a pas foncièrement changé, il faut avoir en tête aujourd'hui que le doreur est capable d'innover pour s'adapter à toutes les demandes. Tenez, écoutez ce que m'a dit Clément à ce propos.
Alors il y a, je pense, beaucoup de clichés et qu'on essaye nous aujourd'hui de dépoussiérer justement. C'est-à-dire qu'on imagine le doreur comme un travailleur de l'ombre au fin fond de son atelier, un peu poussiéreux. Et nous aujourd'hui, on essaye de montrer la feuille d'or et notre métier autrement, en amenant la feuille d'or sur d'autres supports, là où on ne l'attend pas, et démystifier un peu tout ce qui lui colle un petit peu à la peau.
Absolument, démystifions.
Alors on va plus aujourd'hui nous parler de décoration, de design, d'art. de montrer qu'avec quelques feuilles d'or, on peut faire quelque chose d'absolument magique.
Et la technique, elle a évolué aujourd'hui. Quelle technique vous employez ?
Tout à fait. Alors, les techniques ont évolué. Les colles que nous utilisons pour appliquer la feuille ont évolué. On a la possibilité de travailler plus rapidement, parce que le monde va plus vite, donc nous devons aller plus vite également.
Alors, on se balade dans cet atelier. Je vois des cadres contemporains et anciens. Je vois du mobilier et je vois même une planche de surf. J'aimerais en savoir plus.
Alors effectivement, c'est étonnant, c'est pas ce type de support qu'on a l'habitude de nous voir intervenir. Mais un jour, un fabricant de planches de surf traditionnel, on appelle ça donc un board shaper, du côté d'Osgore, nous a contacté à l'occasion du Lacano Pro pour tenter de dorer à la feuille d'or un longboard et l'encapsuler comme il le ferait pour une planche traditionnelle. Donc on peut surfer avec cette planche en or.
C'est bien justement de montrer toutes ces applications très, très différentes. Et si on veut se faire une idée de cette planche de surf en or et de toutes les autres réalisations de l'atelier Thierry, où peut-on aller pour voir tout ça ?
Bah, par exemple sur leur site.
Alors, si pouvez-vous nous rappeler leur site ?
Alors leur site c'est www.or-decor.com.
Merci beaucoup Thibaut, merci. Et donc à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte.
À la semaine prochaine.
Merci à vous chers auditeurs, on se retrouve ici même jour, même heure. Et pour les nostalgiques ou les retardataires, n'oubliez pas que l'émission, vous pouvez la réécouter même en boucle, si vous le souhaitez, en podcast, sur le site de sudradio.fr. Merci et bon dimanche à tous.